Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le studio s'est implanté à Domitys-Romorantin, le jardin des Trois Rois. Et nous accueillons avec grand plaisir les résidents et Julie, l'animatrice de Domitys-Vierzon, le village, ainsi que les animateurs de Radio Tintouin, sans qui cette émission n'existerait pas. Merci aux auditeurs d'être présents. Je vous souhaite un beau moment d'écoute et je passe la parole à Julie.
Merci Anne-Sophie, bonjour à tous. On démarre l'émission, donc le rendez-vous du bonheur, avec Pierre qui va nous lire une devinette.
Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par une devinette. Dans mon texte, chaque mot a son importance. Trois braves curés de campagne, à l'occasion de l'anniversaire de l'un d'entre eux, toujours vêtus de leur soutane, se donnent rendez-vous le soir à minuit pour fêter l'anniversaire. Ils vont boire abondamment du champagne. Il est minuit. À partir de tous ces éléments, je vous demande par quels moyens de locomotion se sont-ils déplacés. Également la superficie du parc en question et le prix du parc. Réfléchissez bien, dérouillez vos neurones et vos ménages.
Merci Pierre. Donc vous avez le temps de l'émission pour trouver réponse, donc les auditeurs et les chroniqueuses, hein, évidemment. On poursuit avec Françoise. Vous allez nous lire une recette de cuisine, donc le gâteau au yaourt au chocolat et aux pommes.
Mettre un yaourt nature dans un saladier avec 3 œufs, 2 pots de sucre semoule, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, mélanger le tout au batteur électrique. Et après, ajoutez 3 pots de farine, un sachet de levure, un demi-pot d'huile, remélanger au batteur électrique, mettre des fruits coupés en morceaux, pommes ou poires, et 4 cuillères à soupe de Nesquik, bien rebattre le tout. Thermostasis pendant 30 minutes, vérifiez la cuisson en plantant la lame d'un couteau.
Merci Françoise. On peut dire qu'il est bon le gâteau parce qu'on a quand même testé. Hein. Elle nous a fait l'honneur de nous le faire la semaine dernière.
Hein. J'ai pas pensé, j'aurais dû en faire un pour aujourd'hui. Hein.
Tout à fait.
Merci Françoise.
Merci Françoise. On va voir Gilberte qui va nous raconter une histoire. Donc, est-ce que c'était mieux avant ?
Quelques jours avant la rentrée d'octobre 1952, je reçus la convocation pour mon premier poste d'institutrice. J'étais nommée à Boifle, Seine-et-Oise, sans aucune autre précision sur la façon de s'y rendre, ni même de numéro de téléphone de l'école ou de la mairie. Après des recherches laborieuses sur le calendrier des PTT, Internet n'étant pas encore de ce monde, mes parents et moi découvrons Boifle, à l'ouest d'Argenteuil où nous habitions. Heureusement, mon oncle avait une voiture et nous a véhiculés jusqu'à Boifle sans l'aide de Madame GPS, qui, elle non plus, n'avait pas encore vu le jour. Nous voilà arrivés à Boifle. Le maire nous présente ma classe. Oh, quel choc ! Je sortais de l'école normale de Saint-Germain-en-Laye, la plus belle de France, paraît-il. Je n'avais fréquenté que de jolies écoles de ville, excepté pendant la guerre, bien sûr, mais ceci est une autre histoire. En fait, Boifle avait, avant la guerre, 2 écoles, une de filles et une de garçons, qui avaient été géminées, c'est-à-dire en accueillant filles et garçons. Celle des filles recevant les petites classes, celle des garçons les grandes classes jusqu'au certificat d'études. Après la guerre, des usines s'étant installées dans les villes des alentours, la population de Boifle avait considérablement augmenté et, provisoirement, entre guillemets, une classe avait été ouverte dans un pavillon inoccupé depuis longtemps et pas du tout adapté à cet usage. Ma classe était au rez-de-chaussée de ce pavillon. Elle était constituée de 2 pièces contiguës, dont une grande et une petite pièce, dont la cloison de séparation avait été abattue. Mais il y avait un décrochement entre les 2 pièces. La plus grande recevait les élèves de 5 et 6 ans pour le cours préparatoire. Ils étaient 40, serrés comme des sardines, devant un tableau noir mobile placé devant une fenêtre qui donnait sur la rue. On entrait par la plus petite pièce qui donnait sur l'autre rue et qui contenait un piano, le poêle, une table ronde autour de laquelle étaient assis les 14 petits de section enfantine, heureusement surveillés et même occupés par Morissette, une charmante dame employée par la commune. Comme matériel, pas grand-chose. De vieux livres de lecture plus du tout utilisés dans les stages de formation professionnelle. J'obtins, heureusement, assez rapidement, une pâte à polycopier et j'en enseignais le maniement à Morissette, ce qui me rendit bien service. Une pâte à polycopier, je ne sais pas si vous connaissez. Un jour, je vous expliquerai peut-être, c'était assez compliqué. Passons à mon logement de fonction. Ne pouvant rentrer chez moi que le samedi soir avec ma bicyclette, j'allais jusqu'à la gare de Melun-Hardricourt, à plusieurs kilomètres. Là, je retrouvais deux amis qui, comme moi, étaient nommés dans la région. Nous laissions nos vélos dans un café près de la gare et nous prenions le train. Le fameux logement se trouvait au-dessus de la classe. Une cuisine et une chambre séparé par un palier qui contenait, derrière un vieux rideau, des objets divers qui avaient attiré des rats. Je me souviens des cris que je poussais pour appeler le garde champêtre qui habitait tout près pour qu'il vienne me débarrasser des cadavres, car j'avais mis de la mort aux rats. Pas de salle d'eau, les WC dans la cour de récréation. Il y avait bien une vieille baignoire au rez-de-chaussée, mais complètement en ruine et pleine de charbon. Ajoutons à cela que plusieurs enfants adoraient aller fouiller dans la décharge municipale où les rats pullulaient. J'en suis sûre, je les ai vus. Et rapportaient leurs trouvailles à l'école, malgré mes protestations et mes interdictions. Voilà un résumé de ma première année d'enseignement. J'y ai passé quand même de bons moments, avec les enfants qui, dans l'ensemble, ont progressé à peu près normalement. Mon CAP s'est bien passé, les gens du village, les parents d'élèves et mes collègues étaient sympathiques. Une jeune fille avec le piano qui était dans la petite partie de la classe m'a bien aidée à préparer la fête de fin d'année, qui fut une réussite. Qui veut mieux ? Eh bien, le croira-t-on, j'ai demandé mon changement pour la rentrée suivante. Ouf ! Je me demande si maintenant on accepterait de travailler dans des conditions pareilles. Certainement pas, et on aurait bien raison.
Je suis en train de lire un livre de Christian Signol qui s'intitule « Une si belle école ».
Ah,
ça reflète exactement ce que vous
dites. Ben, vous voyez.
Ça
ne m'étonne pas.
Ah oui, c'est rigolo. Oui.
C'était juste après la sortie de la guerre.
Ouais.
On va écouter Yvonne, qui va nous lire un texte qui s'intitule « La France va mal », que vous avez écrit vous-même.
Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous n'en avez pas marre, vous, de toute cette violence qui s'installe dans notre société désormais? Il y a des gens qui boycottent systématiquement les journaux télévisés parce que, disent-ils, on n'y entend que des mauvaises nouvelles. C'est vrai, ils ont raison. Pourtant moi, même si ça m'interpelle, voire même que ça m'effraie et me stupéfie, chaque midi et chaque soir, j'ai besoin de ma dose de nouvelles. Alors suis-je anormale? Je me pose la question sans pour autant prendre la décision drastique de laisser la radio et la télé éteintes. Parce que parmi cette avalanche de désastres en tout genre, la guerre, les catastrophes climatiques telles que les orages de plus en plus dévastateurs, les agressions d'élus, de médecins, de pharmaciens, la drogue qui fait s'entretuer des jeunes, toujours plus jeunes, le harcèlement scolaire qui pousse au suicide des enfants, les disparitions inquiétantes, souvent de femmes jeunes, que l'on retrouve plus ou moins mortes ou violées, des années plus tard, quelquefois. Et je pense aussi à ce pauvre monsieur Paty, parce qu'on atteint aussi les enseignants. Et parfois, par les enfants. les terroristes aussi. Puis maintenant, l'inflation, les grèves, les manifestations qui sont plus des émeutes que des revendications lorsque les Black Blocs s'en mêlent. Et n'oublions pas les incendies destructeurs qui commencent dès le printemps. Enfin, je parlerai aussi des médicaments qui manquent et des médecins qui se raréfient. Est-ce que j'ai tout mentionné ? C'est pas sûr. Nous sommes au XXIe siècle et c'est le bordel, je vous le dis. Ajoutez à cela les réseaux sociaux qui gangrènent, non, que dis-je, qui pourrissent notre jeunesse à grands coups de followers avec des influenceurs à peine sortis de l'école qui se la pètent en gagnant beaucoup de fric grâce à des tutos plus ou moins débiles. Oui, il y a aussi de bonnes choses sur les 10 réseaux, telles que des photos mignonnes avec des animaux ou des bébés. Il y a des conseils aussi, etc. Comme on dit, il faut vivre avec son temps. Pourtant, né en 1945, j'ai la nostalgie de mes années 60, où il n'y avait pas encore de téléviseur chez nous. On écoutait la radio, Radio Luxembourg précisément. Papa s'informait, écoutait les voix chaudes, écoutait les matchs de foot. Maman écoutait l'après-midi Pierre-Jean Vaillard qui disait d'une voix chaude et esquise « Je vous salue mesdames ». Puis on écoutait Jeanne Sourza avec Raymond Souplex sur leur banc, le télécrochet, ancêtre des émissions actuelles The Voice ou la Star Academy, pour ne citer que celle-ci. Parfois aussi, on nous présentait des pièces de théâtre ou bien encore Pierre Belmar racontait ses histoires extraordinaires. Zappy Max avec la bise à Zappy, lequel présentait, je crois, des jeux. Il y avait aussi, et ça régalait papa, les chansonniers. J'en passe et des meilleurs sans aucun doute. C'est par la radio, hélas, que nous avons appris le 22 novembre 1962 la triste nouvelle de l'assassinat du président des USA, Kennedy, par, pense-t-on, Lee Harvey Oswald, pendant notre dîner. Et j'ai pleuré ce soir-là. Nous étions tous choqués. Papa écoutait aussi son Tour de France. Jacques Anquetil, Poulidor, Di Poupou, Louison Bobet, Fausto Coppi aussi et d'autres dont j'ai oublié les noms. C'est vrai que je pourrais aussi parler du confort très restreint de nos logements sans salle d'eau. On se lavait sur l'évier de cuisine. Pour les WC, on allait dans la cour. Et c'était des WC turcs. C'était une cuisinière à charbon qui nous réchauffait en hiver. Charbon que j'allais chercher moi-même à la cave. Pas de réfrigérateur, pas de lave-linge, mais une bassine dans laquelle maman lavait tout le linge qui ensuite séchait sur des fils tendus en travers de la cuisine et qui était la pièce principale. Je ne crache pas sur la modernité en tant que facilité de vie, mais je réprouve tous ces jeunes lesquels se croient supérieurs à nous les anciens parce qu'ils maîtrisent mieux que nous les nouvelles technologies. On ne se parle plus, on ne se regarde même pas. La plupart des gens ont le nez penché sur leur smartphone, mais qui peut de nos jours écrire une phrase entière en bon français sans commettre une faute. Je vois l'avenir de notre pays bien mal parti, mais soyons optimistes en espérant qu'il va y avoir un revirement, un retour en arrière, sait-on jamais. En attendant, moi j'ai mal à ma France.
Marguerite, c'est à vous. On va vous écouter. Vous allez nous lire un poème de votre petite fille Camille qui s'intitule « Les fleurs ».
Oui, elle a écrit différentes choses, différents petits livres d'ailleurs. Mais là, c'est un poème, elle aimait écrire. Elle aimait écrire, Camille, quand elle était petite. Les fleurs. L'étincelante rose pour faire passer le temps rédige de la prose pour son prince charmant. La rayonnante jonquille, sous son manteau de feuilles, essaie de jouer aux quilles malgré son unique œil. L'imprévisible marguerite, sur sa terrasse ombragée, mange d'excellentes frites jusqu'à s'en dégoûter. La géante orchidée, avec ses pétales colorés, tente de respirer l'air très pollué. Le fragile jasmin, aux lueurs du matin, répand son parfum dans les eaux du lointain. Et elle chante tout en chœur la musique du bonheur. Voilà, Camille. C'était Camille quand elle était petite.
Voilà.
Elle avait 10 ans.
Oui.
Alors, Solange, c'est à vous. Vous allez nous lire un texte qui s'intitule « Réussir ».
Réussir. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas devenir célèbre, ni riche ou encore puissant. Réussir. C'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire dans la journée. Heureux, on a l'impression de s'envoler. C'est travailler avec des gens qu'on aime, réussir. C'est d'être en contact avec le monde et communiquer sa passion. Et c'est trouver une façon de rassembler les gens qui n'ont peut-être rien d'autre en commun qu'un rêve. Ce n'est pas toujours se coucher le soir en se disant ce qu'on fait du mieux, ce qu'on a pu. Réussir, c'est connaître la joie, la liberté et l'amitié. Je dirais que réussir, c'est aimer.
Pierre, c'est à vous. Vous allez nous lire une poésie.
Oui.
Prière destinée aux prédicateurs.
Prière destinée aux prédicateurs de toute religion. Avec ou sans soutane, vous, messagers de Dieu, sans aucun état d'âme, aimez riches et gueux. Au-dessus de saintes paroles, de brillantes oraisons, par-delà toute parabole, vos actes sont raison. Nul besoin de prêches enflammées, de belles prières assermentées. Vous, imam, pasteur et abbé, exemplarité vous nous devez.
Françoise, vous avez une moralité à nous lire. On vous écoute.
Il était une fois quatre individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire. Et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais ce fut personne qui le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un n'aurait pas. Ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir engueuler tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qui doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement on ne trouve personne. C'est bien, hein?
Oui.
Oh oui!
Alors, Gilberte, vous avez une chanson à nous proposer, La soupe aux choux.
Ah oui, il faut qu'on chante.
Et on va vous accompagner pour le refrain.
D'accord. Parce que, ben, justement, cette classe dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors à la fête des écoles, d'accord. Il fallait qu'on présente tous nos élèves. Donc les 50, mes 54, plus les autres des deux autres classes, devaient tous passer sur la scène, tous. Alors moi, les 54, j'avais pris quelques filles parmi les plus grandes, avec des petites jupes en papier crépon, je ne sais plus ce que je leur avais fait danser. Et puis avec les autres, j'avais trouvé une vieille chanson qui s'appelait « La soupe aux choux ». Alors voilà ce qu'elle dit, je ne vais pas vous la chanter. Mais je vais vous la lire. On a, en sortant de l'école, l'estomac dans les talons. Mais chez nous, il n'y a plus de casserole et il y a un trou dans le poêlon. Heureusement qu'il y a le chaudron, car nous nous en servirons.
Envoyez le chaudron.
À la bonne soupe, à la bonne soupe aux choux, que vous mangerez avec nous, à la soupe aux choux, you. On a mis le chaudron dans l'âtre et de l'eau dans le chaudron. Puis dans l'eau, on a mis quatre tranches d'un beau potiron. Puis du persil en bouquet et on a battu le briquet.
Attisons le feu.
À la bonne soupe aux choux que vous mangerez avec nous. À la soupe aux choux, you. On a mis quelques épices, du lard et puis un jambon avec un chapelet de saucisses qui sommeillait au plafond. On a, pour que ce soit moins sec, mis les bouts de ficelle avec. Aiguisez les couteaux. À la bonne soupe aux choux que vous mangerez avec nous. À la soupe aux choux, you. On a mis un céleri rave, deux têtes d'ail et trois oignons, plus une douzaine de carottes, des navets et trois poireaux. Mais, comme on s'est dépêché, on ne les a pas épluchés. Mettez la table.
À la bonne soupe, soupe, à la bonne soupe aux choux, que vous mangerez avec nous. À la soupe aux choux, you! Mais voilà le plus cocasse, nous avons vu tout d'un coup qu'il n'y avait plus de place dans le chaudron pour mettre le chou. Comme c'est cuit et qu'on a faim, le chou sera pour les lapins. Bon appétit! À la bonne soupe, soupe, à la bonne soupe sans chou, que vous mangerez avec nous. Ah, la soupe sans chou, you!
Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
On continue en chanson avec Marguerite, la chanson de Lara.
Un jour, Lara, quand le vent a tourné, un jour, Lara, quand l'amour t'a quitté, tes yeux, Lara, revoient toujours ce train, ce dernier train, partant vers le chagrin. Le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà, l'horizon brûlait. Cette chanson que chantaient les soldats, c'était si bon, serré entre tes bras, au bord des pleurs, tu souriais, Lara, oubliant l'heure, la guerre, la peur, le froid. Le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà, le canon tonnait. Un jour, Lara, quand tournera le vent, un jour, Lara, ce sera comme avant. Alors, c'était comme un manège, pour toi sera ta chanson. Lara, Lara.
On va écouter à présent un duo donc de Odette et Jean-Claude qui vont nous lire un texte écrit par Jean-Claude qui s'intitule « Odette, la Ford, l'Angélus ».
Odette vient de garer son déambulateur près de sa table, dans la salle du restaurant. Manœuvre impeccable. Je lui en fais compliment. Elle embraye aussitôt.
« Quand j'ai passé mon permis, je faisais très bien les créneaux, ça oui. J'ai commencé à conduire à 10 ans. Papa disait... « Allez, Odette, prends le volant !» Josette, ma sœur, était aussi du voyage. Il n'y avait pas loin du garage de papa, à l'atelier de ferronnerie de mon grand-père. Mais pourtant, ça mettait ma grand-mère bien en colère. Elle disait à son fils, « T'es toujours bien fou, mon garçon, de faire monter ces... comme ça, ces deux gamines en voiture !» Mais nous, pensez si on était contents.
Mais dites-moi, Odette, vous aviez les jambes assez longues ?
Papa mettait des calembours. Josette était plus grande que moi, mais c'était moi la plus intrépide.
Pour tout dire, cette information n'est pas une surprise. Lorsque Madame Odette Genest est arrivée de genouillis à la résidence, en mai, chacun a pu constater que si elle a quelque chose à dire, elle ne l'envoie pas dire.
Ça, c'est vrai.
Elle égrène facilement ses souvenirs. On retient ceux qui sont les plus drôles, mais les non-dits laissent deviner des moments plus douloureux. Renouons le fil de ces souvenirs. C'était quel type de voiture ?
Une Ford décapotable, avec la pouette-pouette à l'extérieur, à gauche, et la route se court à droite. Alors, après la Ford, papa a eu une Renault, avec des sièges en cuir. À l'arrière, il y avait deux strapontins en plus de la banquette. Avant la guerre, On avait visité tous les châteaux de la région. Et aussi le barrage des Guisons. On avait pris un pique-nique dans un panier. Papa ne savait pas quoi inventer pour nous faire plaisir. Ça, c'est vrai.
Aujourd'hui, Odette est assise seule au bar, devant une tasse de lait. Odette, un jour, vous m'aviez parlé d'une histoire avec des petits cailloux.
Des pierres grosses comme la tasse, là. Agenouillis, le bedeau, Émile, était un vieux gars qui vivait avec ses parents. Pas mariable, un simplet, pas méchant. Il avait peur de tout. On se cachait derrière l'église pour lui faire peur. Pour carnaval, il avait peur de nos déguisements et de nos masques. Le curé Bonnet lui avait demandé de sonner l'Angélus, mais Émile ne savait pas compter. Alors le curé lui avait installé des petites pierres et des grosses pierres, dans l'ordre où il devait sonner la petite cloche ou la grosse. Oh oui, on tournerait. Un matin, l'Angélus avait sonné tout chamboulé. Ma grand-mère avait dit, « Il est toujours bien fou, Mimile. Il nous a sonné un de ces Angélus ce matin. C'est moi, avec Josette et les copains, la bande du Babour. Nous avions changé les pierres de place. »
Votre grand-mère a dû vous fâcher.
Non, les gens ont ri. On n'était pas méchants. Juste un peu spiègle.
Nous laisserons à Odette la responsabilité de ce jugement.
Voilà.
On continue avec Yvonne, qui va nous lire le texte « L'hôpital a remplacé la forêt ».
Oui. C'était un week-end de Pâques, en 1971, il faisait très beau. Nous étions en train de déjeuner quand un coup de frein retentissant nous a surpris. Sans plus réfléchir, mon mari est passé par la fenêtre, nous habitions au rez-de-chaussée, pour aller porter secours à une fillette qui venait de se faire renverser. Fort heureusement, elle n'avait rien de grave, mais police secours l'a malgré tout emmenée à l'hôpital. Pour oublier cet incident, nous décidâmes d'aller passer l'après-midi dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye avec nos deux filles, Christelle, âgée de 7 ans, et Karine, qui n'avait que 18 mois. Et il nous parut intéressant de prendre aussi Mitounet, notre jeune chat qui appartenait surtout à Christelle. Puis cette dernière nous a demandé si Nathalie, une copine, pouvait venir et nous l'avons acceptée. Nous voilà tous installés dans la voiture de fonction de Daniel, une 203 Break, dans laquelle nous avons pu ranger aussi les vélos des enfants. À l'arrière, les filles faisaient un peu de bruit, mais je regardais la route quand, subitement, Daniel s'arrêta net en disant « Merde, Karine !» J'ai eu le temps de regarder derrière et j'ai vu horrifié mon bébé sur la route. Moi, tenant mal debout à cette époque, je suis allée tant bien que mal retrouver Daniel et Karine au même moment, une voiture arrivait. Et là, en un éclair, j'ai pensé qu'on avait évité une vraie catastrophe à quelques minutes près. Le chauffeur, d'ailleurs, a reconnu, soulagé, que pour un peu, l'enfant lui serait tombé devant les roues. Apparemment, notre bout de chou n'avait rien, sinon quelques hématomes et petites blessures à l'arcade sourcilière. À cet endroit se tenait un bar, et bien sûr, les clients étaient tous sortis effrayés. Les policiers avertis par le gérant du bar sont arrivés très vite et nous ont aussitôt demandé ce qui s'était passé. Le pire, c'est que nous n'en savions rien. Si ce n'est que les portes arrière du break étaient ouvertes. C'est alors que Christelle nous a expliqué que Karine tripotait la serrure pendant que nous roulions et Nathalie expliquait à notre aînée qu'elle avait peur du chat. La pauvre Christelle avait alors détourné l'attention de sa petite sœur pour empêcher le chat d'aller vers Nathalie. C'est ainsi que la petite avait réussi à ouvrir la porte et est tombée sur la route. Les flics nous ont demandé si notre fille avait perdu connaissance, ce à quoi Daniel a pu répondre par la négative, et si elle avait mangé. Oui, il y avait environ 2 heures. Bref, ils l'ont conduite à l'hôpital de Saint-Germain et nous avons suivi le fourgon. Sur place, des médecins ont préféré la garder sous surveillance pour la nuit. Complètement déprimés, nous sommes rentrés chez nous à plaisir. Mais mon mari, lui, est reparti porter le doudou, un petit dessus de lit que la petite traînait partout, à sa fillette adorée parce qu'a-t-il dit, elle ne pourra pas dormir sans lui. Ainsi, cette balade en forêt s'est passée à l'hôpital. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dimanche était mouvementé. Mais tout est bien qui finit bien, il n'y a pas de séquelles, sauf une légère cicatrice que notre fille garde au-dessus de l'œil comme un signe distinctif.
On va écouter Gisèle qui va nous lire un texte qui s'intitule « Les 10 ans de la résidence ».
Le 31 mars 2023, alors que nous fêtions les 10 ans de la résidence Le Jardin des Trois Rois à Romorantin, j'ai dit ces quelques mots. Le 23 mars 2013, j'arrivais à Domitis à 10h avec les déménageurs et à midi, tous les meubles et cartons sont en place dans l'appartement. La résidence est ouverte depuis quelques jours et seulement 3 ou 4 personnes sont déjà présentes. C'est alors que nous faisons connaissance et au fil du temps, nous accueillons au mieux les nouveaux résidents à qui nous conseillons de participer le plus possible aux animations et sorties afin de meubler au mieux nos journées, surtout si les familles ne sont pas à proximité. Puis, le 15 mars 2020, arrive le confinement. Je n'oublierai jamais cette période que j'ai très bien vécue grâce aux bons soins de tout le personnel qui s'est employé à nous distraire en faisant des animations dans les jardins et que nous regardions de la fenêtre ou du balcon. D'autre part, nous avons été gâtés par Jeff de Bruges et le magasin Leclerc qui nous ont envoyé des chocolats. C'était la période de Pâques. Ainsi, 10 ans sont passés et je vais conclure en chanson. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Les amis, les sorties, tout cela m'a réussi. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Chante bien cette dame.
Et c'est la vérité, je ne regrette rien.
On termine l'émission avec Pierre, qui va nous donner la réponse à la devinette.
Alors, souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de 3 braves curés de campagne encore vêtus de leur soutane. Ce sont des soutanes dont ce habit, ça sert d'auto. Donc, ils sont venus en auto. Je vous ai dit qu'ils avaient bu du champagne, abondamment. Du champagne, c'est 1 hectare. Donc, 1 hectare. C'était minuit. Minuit, c'est tard. Donc, 1 hectare, c'est tard. Ils sont curés. Ils ne sont pas évêques. Donc, ils n'ont pas de tiare. Donc, 300 tiares. 1 hectare, c'est tard, 300 tiares. Et comme ils ont bu abondamment du champagne, ils étaient sous. Donc, c'est 3 sous l'art.
Vous allez chercher tout ça.
J'ai entendu ça aussi. J'ai entendu ça il y a très longtemps sur Internet. Non, même pas sur Internet. Non, il y a très longtemps. C'est pas sur Internet. Ouais,
on a terminé l'émission. Merci à vous pour votre participation. Merci de nous avoir accueillis au sein de votre belle résidence. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.
Chez Domitis, on est si bien, nous les anciens. On a toujours le cœur en fête, on est si bien. Qui ça, nous les anciens? Où ça, chez Domitis?